Good Morning Business, le monde qui bouge. L'interview.
C'est Ulrich Bouna qui est avec moi ce matin, chercheur chez Eurocreative. Bonjour, merci d'être avec moi. C'est vrai que le monde a les yeux tournés vers ce conflit au Moyen-Orient. Mais il y a ce qui se passe aussi en Ukraine. Encore une alerte aux missiles russes cette nuit à Kiev. Ça veut dire que les combats continuent. Ils se sont même intensifiés au mois de juillet. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement où il en est ce conflit, Ulrich?
Le conflit continue toujours sur la ligne de front. Donc l'essentiel des combats se passe dans l'est de l'Ukraine, au Donbass, ou notamment dans la ville de Konstantinivka, où les Russes essayent de progresser et progressent très très laborieusement, perdent énormément d'hommes. Et après, effectivement, vous avez des frappes très régulières, puisque le front se débloque pas trop. Les deux protagonistes essayent de frapper en profondeur pour déstabiliser un petit peu l'arrière. Et donc, on voit effectivement, pas plus tard que cette nuit, des frappes de missiles balistiques et des frappes de missiles de croisière russes sur les principales villes ukrainiennes, notamment Kiev et Lviv. Mais ce qui est nouveau, c'est cette contrepartie. C'est-à-dire que les Ukrainiens, désormais, ont cette capacité à envoyer des drones très longue distance sur les raffineries ou sur l'Amazon russe en profondeur en Russie.
Volodymyr Zelensky était à la Maison-Blanche cette semaine. Il a rencontré Donald Trump. Est-ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait? Il voulait notamment des systèmes antimissiles.
Alors, il l'a à moitié obtenu, c'est-à-dire qu'il a donc obtenu cette licence qui lui permettra de produire ses propres missiles Patriot, qui sont la seule arme efficace contre les missiles balistiques. Donc ça, il l'a obtenu, mais ça résoudra le problème probablement dans 2 ans. Il faut grosso modo à peu près 1 an pour construire la chaîne de montage et encore 1 an pour les produire. En revanche, il a besoin de 300 missiles Patriot probablement pour tenir l'hiver, et ça va être très compliqué de les obtenir, parce que on estime que les Américains en ont tiré à peu près 1500 en Iran, il leur en reste à peu près 1000, donc vous voyez que 300, c'est grosso modo le tiers du stock américain, donc ça semble relativement probable qu'ils les aient.
On est là-dedans, on est dans le moment où on compte les missiles?
Oui, complètement. En tout cas, enfin, ça dépend des capacités, mais sur les capacités anti-aériennes, anti-balistiques, oui, les Américains et leurs alliés au Moyen-Orient en ont énormément utilisé et continueront d'en utiliser, parce que les Iraniens continuent à tirer sur le Moyen-Orient, donc effectivement, il y a une pénurie mondiale de Patriot.
Il y a quelques jours, l'Ukraine a frappé un navire iranien reliant Téhéran à Moscou, navire qui contenait des armes, me semble-t-il. Quelle était la stratégie derrière cette attaque? Parce que là, ce sont les deux conflits qui sont en train de se croiser.
Alors effectivement, les deux conflits se croisent, et c'est logique, hein, parce que l'Iran aide Moscou en Ukraine et Moscou aide l'Iran à répliquer contre les Américains au Moyen-Orient, notamment en termes d'imagerie satellitaire. Et donc effectivement, l'objectif des Ukrainiens en frappant ce navire en mer Caspienne, c'était probablement justement de montrer à Donald Trump que les deux sont liés et qu'effectivement aider l'Ukraine, c'est en quelque sorte lutter contre l'Iran. Je suis pas sûr que le message soit complètement passé à Washington, mais en tous les cas, c'était ça la stratégie ukrainienne.
Oui, parce que Téhéran aurait étudié une frappe contre un port ukrainien en mer Noire en représailles avant d'y renoncer à la suite d'efforts diplomatiques. Mais est-ce que ça veut dire que le conflit pourrait s'étendre réellement si les Iraniens le décident?
Réellement, non. Là, on parlait effectivement d'une frappe éventuellement symbolique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, l'Iran a soutenu l'effort de guerre. C'est moins important maintenant, mais l'Iran a soutenu l'effort de guerre de Moscou en lui fournissant notamment ces fameux drones Shahed, où ensuite les Russes ont amélioré. Mais ça a donné quand même un avantage ponctuel assez important à la Russie, qui a été la première à avoir ces espèces de drones kamikazes longue distance avec des charges explosives assez importantes. Donc, dans tous les cas, oui, l'Iran est associé en fait à l'effort de guerre russe en Ukraine, au même titre que la Corée du Nord a fourni des millions d'obus et que la Chine fournit une partie de l'industrie qui sert à fabriquer des armes en Russie.
Quoi qu'il arrive, on voit que Volodymyr Zelensky reste très présent sur la scène internationale. En France, il a proposé d'envoyer des spécialistes ukrainiens pour soutenir les secours français sur les incendies en Gironde. C'est symbolique, mais ça témoigne du renforcement entre les liens, ou en tout cas de cette volonté de rester visible.
Ah oui, complètement. Mais disons que pour Volodymyr Zelensky, rester visible à l'international, c'est continuer à avoir de l'aide international, c'est continuer à avoir des partenariats industriels dans la défense. Donc tout ça, c'est fondamental pour aider à l'Ukraine à tenir probablement les prochains mois, le prochain hiver qui va être encore plus dur, etc. Mais effectivement, et on sent par rapport à la France un vrai rapprochement, Volodymyr Zelensky a appelé effectivement le président français pour le débriefer dans l'avion qu'il ramenait de Washington. Donc ça montre que les deux sont extrêmement proches. Ça s'est symbolisé aussi le 14 juillet. Il y a une volonté probablement des deux côtés de bâtir véritablement, on va dire, une alliance au minimum industrielle, militaire très forte entre les deux pays.
On le sait, et là je vais vous reparler du conflit au Moyen-Orient, mais Donald Trump est englué dans un agenda politique avec les midterms au mois de novembre. Il essaye de mettre fin à ce conflit dans lequel il s'est lancé. Il y a très peu de chances que ça marche. Il y a tellement de choses à négocier que ça n'avance pas, notamment dans le détroit d'Hormuz. On est dans une situation où tout cela s'enlise. Vous parlez de l'hiver prochain pour ce conflit ukrainien. Ça veut dire que là, on est encore parti pour des mois et des mois de conflit.
Probablement, mais parce qu'en fait, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, on a deux camps qui estiment qu'ils n'ont pas de besoin impérial ou impérieux plutôt, besoin impérieux de négocier en fait en quelque sorte une cessation des hostilités. Dans le cas de l'Ukraine et la Russie, finalement l'Ukraine ne cédera pas sur sa capacité à résister et à défendre son indépendance. Les Russes estiment qu'ils ont le temps pour eux et qu'ils arriveront à conquérir le Donbass d'une façon ou d'une autre. Et entre l'Iran et les États-Unis, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les Iraniens n'ont certainement pas envie de capituler aux demandes américaines, notamment sur le nucléaire, n'ont pas envie de lâcher le contrôle du détroit d'Ormuz qu'ils ont acquis depuis le 28 février de façon militaire. Et d'un autre côté, les Américains estiment que finalement, ils peuvent continuer à maintenir la pression sur Téhéran d'un point de vue économique en espérant que le régime finalement cède parce qu'il n'aura plus d'argent. Donc on voit bien que dans un cas comme dans l'autre, les protagonistes n'ont pas d'incentive, on va dire, à négocier très très rapidement, et c'est ça qui fait que les conflits s'enlisent.
Merci Ulrich Gouna d'être venu ce matin, chercheur chez Euro Créatif dans la matinale de l'économie.